c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr. On écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé avec votre Club Med La Palmyre Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée au lieu inclusive? Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives, de la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Renseignements et réservations au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Ah oui, que ça sent bon l'esprit de Noël. En tout cas, on est très heureux de vous accompagner pour ce Chute en écoute à télé, l'hebdo spécial Noël en ce 25 décembre. Eh bien, nous sommes là. Nous vous lâchons pas sur l'antenne de votre radio. Et on a grand plaisir en plus à vous proposer une émission 100% inédite aujourd'hui. Avec dans un instant l'un de vos acteurs préférés de Demain nous appartient, qui a une triple actualité cette semaine, Franck Monsigny, qui va nous rejoindre en ligne avec nous d'ici quelques instants. On va parler avec Joséphine Ange Gardien ce soir sur TF1, Demain nous appartient, et on va parler musique aussi. Vous allez découvrir l'artiste derrière Franck Monsigny qui s'appelle Mancini, et on va découvrir son titre joué qui vient de sortir depuis vendredi. Et puis en fin d'émission, Vincent Pérez et Karine Silla seront nos invités exceptionnels pour notre coup de cœur ciné. Ça sortira mercredi, une affaire d'honneur. On va parler duel au sommet avec nos invités. Et puis ça va être un peu notre invité fil rouge pendant toutes ces fêtes, Gilles Alma. Il sera à l'affiche d'Instinct Animal demain soir sur France 2. C'est le grand retour également semaine prochaine de César Wagner, donc Gilles Alma sera avec nous aujourd'hui, mais aussi lundi prochain. Et puis Philippe Basse également, qui va troquer sa casquette d'acteur contre une casquette d'animateur pour Destination X qui débarque jeudi pour M6. Il va tout nous dire. Alors c'est parti pour ce numéro spécial Noël de Chute, on écoute la télé.
L'invité d'honneur de la semaine.
Et celui qui, j'espère, a passé un bon réveillon, en tout cas de Noël, c'est notre ami Franck Monsigny qui est avec nous. Bonjour Franck.
Bonjour, bonjour à tous.
Écoute, ça nous fait super plaisir de t'avoir. C'est un beau cadeau de Noël que tu nous fais aujourd'hui, franchement, au pied du sapin, d'être avec nous, parce que c'est triste actualité. Ce soir, t'es dans Joséphine Ange Gardien, dans l'épisode inédit, Chanter la vie. Tu es aussi dans Demain nous appartient, évidemment, tous les soirs, du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1, et même pendant les fêtes, la série continue, bien sûr. Comme nous, d'ailleurs. On est tous au boulot. Et puis, un projet musical, puisque vendredi, tu as sorti avec ton nom de scène musical Mancini, eh bien, un tout nouveau titre qui s'appelle Jouer, qu'on va écouter d'ailleurs aujourd'hui, puisque tu nous l'as apporté aussi. Dis donc, que d'actualité pendant ces fêtes. Tu fais très bien le Père Noël ce matin.
Oui, t'as vu, j'ai fait mon Père Noël, et puis les planètes se sont alignées effectivement pour cette fin d'année. Je suis très content, on va pouvoir... pour les aficionados, passer une bonne soirée, effectivement, Mancini, parce que dans la foulée, on peut se faire DNA, puis regarder Joséphine, et derrière, se mettre mon titre. C'est quand même une super conjoncture pour moi, je suis ravi.
Eh ben oui, c'est vraiment Noël aujourd'hui. Alors ce soir, tu vas incarner Gilles dans le Joséphine Ange Gardien, Chanter sa vie, c'est l'épisode inédit. Tu vas arriver un petit peu dans un centre de vacances en perdition dirigé par Nora, une ancienne amie. La fermeture du centre est menacée et tu vas tenter d'être avec Joséphine Ange Gardien, évidemment, pour que tout se termine bien comme d'habitude, parce qu'on a besoin de belles histoires pour Noël aussi.
Oui, c'est une petite bulle douce et musicale là qui est proposée, et effectivement l'épisode Chanter sa vie, le titre ne s'invente pas. C'est très drôle parce que c'est un épisode de fiction télé qui s'appelle Chanter sa vie, et un titre derrière que j'ai intitulé Jouer. Donc c'est marrant, la croisée des univers artistiques. Et dans ce Joséphine, c'était quand même une très belle aventure qui m'a été proposée par TF1, parce que on m'a dit quand même qu'il fallait quand même intégrer un projet qui, dans la ligne de Joséphine, serait pour la première fois musical, et dans lequel je serais susceptible de pousser la chansonnette. Donc moi qui étais à l'époque en plein développement Mancini, j'ai trouvé le challenge cadeau, mais aussi très impressionnant.
Et puis tu retrouves dans cet épisode Vanessa Demouy, bien sûr, hein, ton ancienne comparse de Demain nous appartient, aujourd'hui exilée dans Ici tout commence. Donc c'est des retrouvailles aussi pour vous deux.
Ben oui, puis sur DNA, bon, moi j'ai fait le flic avec elle, hein, parce qu'elle n'était pas au mieux de sa forme à l'époque, quand elle s'est fait arrêter, et puis après, il y a eu cette odyssée ITC pour elle, et je suis ravi et très heureux de son parcours, et puis on s'est retrouvé avec beaucoup de plaisir dans le rôle, effectivement, de Nora et de Gilles. Voilà, deux ex-musiciens qui ont fait leur vie, qui se sont croisés, qui ne se sont pas accordés comme Gilles, mon personnage, l'aurait souhaité, mais on répare ça avec la magie de Noël 20 ans plus tard. J'avais joué un épisode de Minati il y a presque une dizaine d'années maintenant, qui s'appelait Je ne vous oublierai jamais, avec Alain Doutet, qui était un magnifique épisode.
Ouais, c'est ce qui me semblait quand tu avais déjà vu dans la série. Ouais.
Oui, avec Emma Colberti, où notre père allait doucement vers l'Alzheimer, et puis il s'agissait de pour sa propre sécurité, de mettre à l'abri ou pas. Mais c'était vraiment très très humain, très bienveillant, très humaniste. Et du coup, Mimi, moi je la connaissais, mais là, on s'est retrouvés à double titre, parce que Mimi est une grande fan de DNA.
Oui, elle était venue faire des apparitions, d'ailleurs, mais je sais pas si vous aviez tourné des scènes ensemble, parce que c'était surtout avec Laurie à l'époque.
Non, c'était pendant mon break de cet été, de DNA. Et effectivement, notre copine Laurie, qui est revenue en tant que réalisatrice, a eu le plaisir de diriger Mimi sur les plateaux de DNA. Donc on s'est croisés, et là enfin, ça y est, on a pu se retrouver sur son terrain. Et comme elle est coquine, elle a pas arrêté d'essayer de gratter des infos concernant DNA que je ne pouvais évidemment pas lui livrer trop par avance.
Non, parce qu'on vous connaît tous, même sous la torture, vous parlez pas.
Non.
Bon, en tout cas, il y a des belles intrigues qui arrivent aussi dans Demain nous appartient, évidemment pour ces fêtes de fin d'année, hein, pas de répit du côté de Seth.
Oui, avec plusieurs univers. Il y avait l'univers affectif de nos retrouvailles avec Jennifer Lorray,
avec Raphaël, oui.
Les fameuses retrouvailles de Raphaël et Martin, qui étaient très attendues. Couple a dû à nouveau, pour les besoins d'une intrigue, se séparer et se retrouver, mais il y a eu donc ma partenaire Jennifer que j'attendais avec impatience. C'est très très agréable, très facile de tourner avec elle. Martin Raphaël, c'est vraiment un couple que j'aime, qui me fait du bien, voilà, qui me fait sortir du bureau et qui me fait jouer des choses avec une palette humoristique que seul Martin n'aurait pas pu aborder.
Et que le public a l'air de beaucoup aimer ce couple.
Je n'ai eu de cesse de lire les gentils retours de fans concernant ce couple qui manquait, qu'on avait hâte de les retrouver. Bon, voilà, c'est chose faite et on s'est pas loupé. Donc c'est un grand grand plaisir. Et puis le feel good de Noël avec cette enquête autour du Père Noël, du gentleman cambrioleur, qui révélera qu'il y avait autre chose de plus grave derrière. Donc je suis arrivé pour remettre un petit peu d'ordre là-dedans.
Bon, en tout cas, ça va se distiller tout au long de ces vacances de Noël, toute cette intrigue justement aussi. Et c'est toujours un plaisir de retrouver toute cette équipe de Demain nous appartient. On est très souvent évidemment avec vous pour promotionner la série. Et c'est une série qui aujourd'hui, le succès ne se dément pas. Comment tu vis aussi ce succès au quotidien qui a changé votre vie à tous, mine de rien? Parce que se balader à la rue, aller faire ses courses et tout, c'est pas toujours simple hein, pour vous tous.
Ça a tout changé à tout point de vue. C'est-à-dire que DNA, au début, c'était le nouveau train dans lequel tout le monde voulait monter. C'est-à-dire qu'il y avait aucune référence possible. Il n'y avait rien qui ressemblait à DNA avant. Même si ça porte le nom de quotidienne, c'était une méthode de production, de confection, de réalisation. C'était une ambiance de terrain. C'était toute une bande de comédiens au coude à coude pour mener à bien un projet dont on ne saurait pas au départ si en plus il allait pérenniser. DNA, ça nous a amené une popularité extraordinaire qui effectivement complique un petit peu les courses du samedi. Mais c'est le retour de la médaille. Et puis de toute façon, ce sont des gens qui nous abordent toujours avec beaucoup de bienveillance pour nous dire que notre travail leur fait du bien.
Exactement.
Donc c'est un peu le but, parce qu'on est dans le divertissement, mais on est aussi dans une forme de soin. Il y a beaucoup de gens à qui ça fait du bien pour X raisons. Chaque personnage amène les bienfaits de sa singularité. Et je trouve que c'est chouette d'avoir ces retours-là. Ça a un sens.
Exactement, et c'est un peu le propre de la série quotidienne, et d'ailleurs vos cousins de Plus belle la vie qui vous rejoignent sur TF1 dès le 8 janvier après le journal de 13h subissent effectivement souvent la même chose, et c'est voilà un vrai plaisir. On va avoir trois séries quotidiennes tous les jours sur TF1 dès le 8 janvier. On va pouvoir évidemment vous y retrouver avec Demain nous appartient, toujours au même horaire, à 19h10 aussi, à cette rentrée 2024. On va écouter un petit extrait de Joséphine, si tu veux bien Franck, et juste après, on parle musique. Parce que avec tu chantes, et on va t'entendre chanter sur notre antenne. À tout de suite avec Franck Consigny.
Je fais comment, moi, si tu t'en vas? J'ai plus personne pour les cadrer, pour le clavier, je fais comment?
Bah, je suis désolée, mais moi, je peux plus.
Bah, je peux peut-être vous dépanner. Yo. Ok, vous êtes qui, vous?
Bah, c'est vrai qu'on s'est pas encore présenté, je suis Joséphine, et je cherche du boulot, j'ai fait toutes les colos environnantes, ils m'ont dit que vous aviez besoin de quelqu'un. Vous venez pour l'annonce?
Restez avec nous, Franck Consigny est de retour dans un instant, juste après ça, à tout de suite.
L'invité d'honneur de la semaine.
Joséphine Ange Gardien, c'est ce soir donc sur TF1 21h10, Chanter sa vie, c'est le tout nouvel épisode inédit qu'on va découvrir. Franck Consigny est avec nous, il sera 19h10 aussi dans Demain nous appartient. Et puis Franck, eh bien il chante Mancini, c'est le titre de ton projet, c'est ton nom de scène aussi pour la musique. Depuis quand tu rêves et t'as envie de faire de la musique, Franck?
Eh ben c'est un doux rêve que je caresse depuis plusieurs années. Il était juste question, voilà, d'appuyer sur le bouton pour acter. Toujours ces soucis d'agenda, ces projets énergivores. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais plus attendre. Je vais plus attendre. Je vais trouver le chemin pour avancer sans regret, parce que épouser une carrière musicale, quelle qu'elle soit, c'est aussi en prendre la responsabilité et puis ne pas avancer avec des regrets. Donc je me suis mis en quête de toujours sa part de belles rencontres. Et puis je me suis lancé et contre toute attente, ça a été très très vite. Le premier morceau que j'ai sorti en août de l'année dernière qui s'appelle Kiff, a été tout de suite pris en main par des producteurs, par un label, par Universal. J'ai été distribué alors que j'étais un bébé. Donc ce que ça m'a évoqué, c'est qu'il fallait que je continue, toujours en travaillant, parce qu'il faut toujours plus. Mais en tout cas, ça m'a accordé la légitimité de continuer.
Oui, puis le monde de la musique, il est rude aujourd'hui, il faut le dire, c'est très difficile de vivre de sa musique, dont beaucoup de gens comme toi font pas ça pour l'argent, il faut quand même le spécifier, mais non. Font ça avec le cœur, c'est des projets qui sont là, et qui sont vraiment là avec le cœur, et qui sont faits pour être partagés avec le public tout simplement aussi.
Oui, parce qu'en fait, ce contre quoi je lutte, c'est que nous ne sommes pas des acteurs, nous ne sommes pas des chanteurs, nous sommes des artistes.
Exactement.
Et à plus d'un titre, on a des choses de nous qu'on souhaite découvrir et puis partager. Et pourquoi pas par le biais de la peinture, de la musique, du théâtre, du cinéma. Enfin, moi, ça me rappelle une phrase de Laurent Terviez qui un jour au sujet du théâtre disait. Du in et du off, du fameux in et du off du Festival d'Avignon qui se produit chaque année, qui disait le théâtre c'est pas ça ou ça, le théâtre c'est ça et ça. Donc ce que j'aime c'est allier les arts et puis dire j'existe en tant que Martin, j'ai existé avant dans d'autres personnages, j'existe en tant que Mancini, vous me rencontrerez dans la rue en tant que Franck, c'est un tout. Voilà, je n'ai pas envie de mettre mes arts dans des cases. J'ai juste envie d'apprendre, de m'amuser, de me faire plaisir et si possible de continuer à toucher les gens. Parce que c'est bien là le propos, c'est de rentrer un peu dans le cœur des gens, dans le ventre des gens, de provoquer des émotions. Et puisque j'ai eu la chance de le faire avec Martin et que je me suis accordé la chance de le faire avec Mancini, eh ben j'en profite. Et surtout, je tiens à faire ça comme personne. C'est-à-dire, j'ai pas de stratégie, je cherche pas à forcément rentrer en radio et, comme tu l'as dit, à gagner de l'argent parce que c'est assez peine perdue en ce moment. Mais en tout cas, d'avoir le plaisir de choisir ma musique pour habiller une story, je trouve ça assez enivrant, je suis comme un gamin en fait.
Pourquoi Mancini?
Parce que c'est mes racines italiennes et que un jour une personne m'a fait la généalogie de ma famille et on nous a retrouvé à démarrer en 1530 en Sardaigne chez les Di Mancini qui se sont par le temps définis en Montini.
Voilà pourquoi. Belle référence. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de références, bien sûr, au cinéma, à des films, dans tes musiques. On sent vraiment cette empreinte de l'artiste multifacette.
Oui, et encore plus avec le titre joué, parce que là, je me suis amusé, en fait, à traverser la vie d'une femme. Mais comme on va écouter la musique, la chanson, on va regarder un court-métrage. J'avais envie d'aborder le sujet, en fait, des journées qu'on traverse en étant dans la peau d'un autre. Parce que souvent, on joue des rôles au travail, on joue des rôles en société, on joue des rôles en soirée. Et qui sommes-nous vraiment? Et parfois, on n'a pas l'occasion de s'exprimer tel qu'on est, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on nous en donne pas l'opportunité. Et c'est ce que va traverser mon héroïne dans cette chanson, jusqu'à ce qu'elle retrouve l'être aimé le soir et qu'elle puisse à nouveau déposer les armes et être elle-même dans ses bras.
Et la scène, c'est quelque chose que t'as envie aussi à l'avenir?
Ouais, la scène, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit bout d'expérience au Festival de Bombardier en septembre l'année dernière, où là, en montant sur scène, j'ai eu une sorte de révélation de me dire, waouh, c'est encore autre chose. J'avais déjà passé le cap de tenir un micro pour chanter, mais là, il n'y avait plus rien qui se référait à ce que je connaissais. Et je suis monté sur scène devant 3000 personnes pour chanter Kiff, et je me suis dit, la prochaine fois que je remonte, ça va pas se passer comme ça, parce que là, je me suis senti débordé, évidemment, j'étais en train de stress et de l'obligation de bien faire, et on me découvre en tant que chanteur, et je me suis dit, ouais, quand même, si je fais de la scène, va falloir que je prenne le temps des choses, parce que c'est encore un exercice qui est différent. C'est pas du théâtre, même si j'ai déjà été sur scène, si je suis un bon orateur au micro, mais là, c'est encore autre chose. Donc, je vais prendre le temps des choses, mais j'en rêve.
On va découvrir jouer dans quelques instants, juste avant, comme c'est Noël, aujourd'hui, avant que t'ailles manger la bûche et oui. Boire une petite coupe, j'espère, en famille. On va déjà te remercier d'avoir passé ces quelques minutes avec nous pour ce jour de Noël. Quels sont tes rêves pour l'avenir? De quoi tu rêves aujourd'hui? Toi qui joues maintenant dans la plus grosse série quotidienne de France, qui aujourd'hui incarne des guests invités sur les plus grosses séries, qui sort maintenant de la musique. Est-ce que t'as d'autres rêves?
J'ai beaucoup d'appétit. J'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de rêves. Est-ce que j'aurai assez de ma vie? Je sais pas, mais toujours de continuer à avancer vers moi-même pour le proposer aux autres. Je pense que ça, c'est le propre de ma vie d'artiste. Je me souhaite toujours d'être émerveillé, je me souhaite toujours d'apprendre. J'aimerais bien aborder un très joli film au cinéma. Vous savez, ces premiers films d'auteurs, d'un réalisateur qui d'un coup propose un scénario que seul le cinéma peut prendre le temps d'aborder. J'aimerais bien. J'ai beaucoup d'ambition.
Bon, mais écoute, tu le sais,
toujours,
en tout cas.
Toujours jouer, toujours chanter, voilà.
On sera toujours là pour que tu partages tes rêves avec nous, en tout cas. Merci beaucoup, Franck.
C'est gentil.
D'avoir été avec nous en ce jour de Noël.
Très joyeux. Ben, un bon boudin, comme on dit dans le Sud.
Ouais, par exemple. Exactement.
C'est une expression consacrée.
Exactement.
Un bon bout de dents, des bulles, des rires, des vrais moments. Ce que je souhaite aux gens, en fait, c'est d'avoir la chance de vivre de ce qui va s'appeler des souvenirs plus tard. Voilà, des jolis moments, parce qu'il y a que ça qui reste, il y a que ça qui compte.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et pour ces fêtes de Noël, vraiment, on vous gâte, hein, avec pour ce jour de Noël, ça va être un peu notre invité fil rouge, parce que il reviendra la semaine prochaine, que d'actualité, pour Gilles Alma, qui est avec nous. Bonjour Gilles.
Coucou, je suis ton petit père Noël avec mes petites bouboules.
Ouais, c'est ça. Eh, dis donc, merci d'avoir quitté le foie gras et la bûche, hein, pour venir en tout cas avec moi parler d'instinct animal, que je vois bien que t'as gardé, du coup, et qu'on va retrouver demain soir sur France 2, après Julie de Bonal. L'année dernière, et bien toi tu pars en Namibie avec Diego Bunel et Perrine Grossemary pour une aventure hors du commun là encore, hein.
Exactement, on est parti en Namibie 15 jours assez extraordinaires, parce qu'il faut savoir que la Namibie c'est un des pays les moins peuplés du monde. C'est une fois et demi la France et il y a 2,5 millions d'habitants, je crois, à peu près, hein. Donc c'est très très peu et il y a beaucoup d'animaux. Et il y a des paysages extraordinaires. Et voilà. Et quand on est parisien ou banlieue parisienne et que tous les jours il y a des bouchons, il y a des klaxons, il y a des gens qui sont énervés et qu'on mène une vie de fou qu'on a à peu près tous avec le boulot et ainsi de suite, qu'on se retrouve là-bas, et ben on se dit peut-être que la réalité et la vérité est autre part.
Quand ils sont venus te chercher, qu'ils t'ont proposé ça, t'as hésité à un moment donné, parce que c'est aussi sortir de sa zone de confort quand même, malgré tout, faire une aventure comme ça.
J'ai pas hésité une seule seconde. Alors, j'ai déjà conscience, avant même d'être né à Montreuil dans le 93 et de vivre la vie que j'ai, c'est-à-dire à 10 000, j'ai conscience que c'est peut-être pas toujours bénéfique pour nous tous. Enfin, en tout cas pour moi. Et je me réfugie régulièrement à la campagne. Et là, je savais que qu'en arrivant en Namibie, j'allais retrouver, peut-être aller chercher un petit peu ce qu'on n'a pas nous ici en France avec cette hyperactivité. Et donc j'ai dit oui tout de suite sans hésiter.
T'as jamais été là-bas? T'avais jamais été avant les missions en voyage personnel par exemple?
Ah non Bibi, non, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. Il y a pas de vol direct de Paris. Et puis moi j'ai un petit truc, c'est que je suis hyper écolo. Alors j'ai du mal à prendre l'avion parce que bon voilà. Après vous pouvez le faire hein, chez vous. Hein. Enfin faites ce que vous voulez. Hein. Je dis moi ça n'engage que moi. Donc voilà. Et là je me suis posé la question pour ça, pour ce problème.
La seule petite hésitation que t'as eu.
Ce problème de voilà, c'est vrai qu'un aller-retour en Namibie, bah c'est ce que consomme en CO2 un Sénégalais en un an hein, par exemple. Hein. Donc voilà, je me suis posé la question pour ça et puis je me suis dit bon on va faire quand même découvrir de belles choses aux téléspectateurs. Et puis moi, je pense vivre quelque chose qu'effectivement, même un millionnaire peut pas se payer parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on descendait du véhicule dans lequel on était pour aller à la rencontre des animaux vraiment au plus proche. Et ça, normalement, on n'a pas le droit. On a eu des autorisations des parcs dans lesquels on était. Et ça, peu de gens peuvent le faire.
On a peur par moment?
Complètement. J'ai vu des rhinocéros noirs de très très près, beaucoup trop. Il faut savoir qu'un rhinocéros noir, quand il te renifle, grosso modo, t'es mort.
C'est pas bon signe.
C'est très mauvais signe. Rhinocéros noir, c'est comme un lion, quoi. Enfin, je veux dire, si ça te fonce dessus, bah t'es foutu, parce que ça va très très vite, ça court très vite. Et donc, oui, on a fait des choses qui sont très très dangereuses, ouais. Donc oui, je me suis fait un petit peu le pissou dessus, oui.
Pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission avec Julie Le Bonnat et tout, elle consiste en quoi l'émission en quelque sorte? On vous emmène comme ça dans un endroit, voilà, retire un peu de tout et retour à l'instinct animal, c'est-à-dire qu'on va vraiment reconnecter l'homme à la nature et aux animaux.
C'est ça, exactement. On retourne à l'état primaire. Alors déjà, on découvre un pays, on découvre des paysages, on découvre des animaux, on les redécouvre parce que ceux qui aiment les documentaires les ont sûrement déjà vus. Mais là, on va au plus proche et on se retrouve un peu avec soi-même. On est dans un pays où il y a pas grand-chose, où on est reconnecté à la nature. Et il faut pas oublier qu'on est des animaux. Donc voilà, on retrouve effectivement notre instinct primaire et on arrête un petit peu de réfléchir.
Il y a un autre pays que t'aurais rêvé de découvrir par cet intermédiaire-là ou pas? Là, on lance peut-être un appel à Raphaël de Casabianca. On sait pas, parce qu'après Instinct Animal, ça peut être un rendez-vous en terre inconnue.
Eh ben, alors, je serais ravi de faire un rendez-vous en terre inconnue et de pas savoir où je vais, parce que là, tu découvres, c'est encore une autre façon de voir les choses. Écoute, moi je trouve que la France est magnifique. Après, voilà, il y a bon là, c'est
toi, c'est nos terres inconnues qu'il faut que tu fasses, en fait.
Oui, c'est vrai, ouais, exactement, nos terres inconnues. Non, écoute, moi, peut-être les pays nordiques, la Norvège, voilà, des pays comme ça. L'Irlande, je crois que j'ai jamais fait l'Irlande ou des choses, voilà, un peu brutes, un peu où on se pèle un peu le cul. Pardon, excuse-moi.
C'est ça. Écoute, c'est des fêtes. On est bien, on passe les fêtes ensemble. Écoute, franchement, c'est génial et bientôt le retour de César Wagner. Mais ça, on en reparlera parce que tu seras de retour lundi prochain pour le premier jour de l'année, parce que ça fera partie de nos premiers coups de cœur télé de cette année 2024. Le retour de César Wagner, qui là est aussi une très belle aventure. Mais surtout, c'est qu'en 2024, la tournée Gilles Lebel continue.
Oui.
Ça n'arrête plus.
Ça n'arrête plus. Tous les week-ends, voilà, on est à presque 190 dates à l'heure où je te parle. Donc, on va arriver aux 200 très facilement. Et puis encore et encore. Et voilà, on est en train de programmer pour 2025. Mais on est dans toute la France tous les week-ends, en janvier, en février, tous les week-ends, on est quelque part en France. Et ça nous fait vraiment plaisir. On prend toujours autant de plaisir à jouer. On s'éclate. On fait rire les gens et les gens nous remercient. Ça nous va droit au cœur, vraiment.
Et on va vous donner quelques dates près de chez vous, juste après l'extrait d'Instinct Animal. On va terminer peut-être par ton plus beau moment, ton plus grand souvenir, à part le rhinocéros peut-être, mais est-ce que t'as un grand souvenir de ce tournage qui va rester gravé un moment, à jamais?
Alors le rhinocéros, j'ai eu ma petite larmichette parce que j'étais face à un animal qui est quand même un dinosaure, voilà, qui est là depuis des... Alors je vais peut-être dire des conneries, je sais plus, mais voilà, ça fait un petit moment qu'il est sur la planète, beaucoup plus que nous. Et j'ai eu j'ai nagé avec les otaries. Mais quand je te dis nager avec des otaries, c'est pas trois otaries dans un bassin aquatique. J'ai nagé dans la mer avec des otaries, il y en avait partout autour de moi. Et ça, c'était assez extraordinaire. Les otaries sont très curieuses, donc elles venaient me voir. Les jeunes venaient me voir avec leurs petites têtes trop mignonnes, avec des dents de 3-4 centimètres très pointues aussi. Mais elles venaient me voir et tout. Et c'était, je me suis dit là, je suis en train de vivre quelque chose de fou. Voilà.
Et vous allez voir ça en images demain soir à 21h10 sur France 2. Nouveau rendez-vous de Instinct Animal avec Perrine Crosmary et Diego Bunel qui accompagne Gilles Alma, justement Namibie, à la découverte de ce magnifique pays. Merci à toi Gilles. À lundi prochain.
Bah oui, on se quitte plus.
Bah non, on va passer tous les jours fériés ensemble. Écoute, on se retrouve pour la nouvelle année, en tout cas lundi prochain. Et puis on va se quitter avec un extrait d'Instinct Animal.
Je m'appelle Gilles Alma. Je suis acteur et humoriste. Sur France 2, je suis le héros de la série César Wagner.
Regardez comme c'est beau.
Ah non, mais arrêtez. J'adore tout ça, vraiment, la nature. Mais je vais pas manger de caca de rhino, moi. Tu trouves ça normal, toi?
Je suis un homme hyperactif et toujours pressé. J'élève mes deux grands-fils, Sacha, 15 ans, et Charlie, qui en a 11.
Notre coup de cœur télé va être consacré à Destination X qui débarque jeudi sur M6, un tout nouveau jeu d'aventure animé. Ça, c'est une surprise, on le connaissait évidemment pour ses talents d'acteur, mais Philippe Bass est avec nous et notre invité qui va animer cette émission. Bonjour Philippe.
Bonjour, comment ça va?
Eh bien écoute, ça va très très bien, puis tellement heureux de te retrouver avec une nouvelle casquette de comédien à animateur de cette aventure hors du commun pour ceux qui ont participé en tout cas.
Ah oui, complètement, ça on peut le dire. C'est quelque chose d'inédit et d'assez surprenant.
Est-ce que toi t'as été surpris quand on a été te chercher justement pour animer ce programme?
Oui, assez, parce que en fait je ne savais pas pourquoi, parce que en premier lieu on ne s'adresserait pas à moi. Il y a déjà des super animateurs un peu partout, notamment sur M6. Et en fait, les producteurs de l'émission, ainsi que les gens de la chaîne M6, me l'ont proposé. En fait, ils m'ont expliqué que cette émission avait déjà eu une saison qui n'a pas encore été diffusée aujourd'hui en Belgique flamande. Et dans le concept de l'émission qu'ils ont acheté et qu'ils ont souhaité reproduire à la française, le maître du jeu était un acteur. Donc naturellement, ils se sont tournés vers des acteurs et moi en particulier. Et donc lorsqu'ils m'ont proposé, ils m'ont montré quelques images aussi, on en a parlé, et j'ai trouvé que c'était... D'abord, je les ai trouvés très enthousiastes. J'ai trouvé le programme intéressant. J'avais pu constater que les candidats passagers, entre guillemets, étaient plutôt dans... Il y avait moins de stratégie que dans certains jeux. Donc, je trouvais ça vraiment sympa. Et donc, j'ai dit oui. Je voulais juste être sûr qu'ils aient ce qu'ils veulent, parce que c'est pas mon métier. Donc voilà, c'était important pour moi qu'on puisse... qu'ils ne soient pas déçus et que je puisse apporter quelque chose. Voilà.
Alors en tout cas, je crois que ça va être une sacrée aventure. Alors, on va y suivre en fait des candidats qui vont voyager aux quatre coins de l'Europe, voire même aux 10 coins de l'Europe, dans un bus où toutes les vitres vont être totalement calfeutrées, c'est-à-dire ils vont voyager eux dans le noir, ils ne savent pas du tout où ils vont. Et à chaque étape où ils vont arriver, en fait, ça va être semé d'indices, ils vont faire des activités, ils vont devoir deviner où ils sont en se plaçant sur une carte. Et celui qui va être le plus loin va être éliminé chaque semaine. Hein. Je crois que c'est ça un peu le concept.
Exactement. Alors après, les vitres, elles sont opaques. C'est-à-dire qu'il y a quand même la lumière qui passe. Ils ne sont pas dans le noir, heureusement, sinon ce serait invivable. Et par moment, le plus souvent, il faut bien le dire, les vitres sont totalement opaques. Et par moment, hop, on peut voir au travers et voir où nous sommes. Mais la plupart du temps, elles sont opaques. Et donc, ils doivent répondre à des quiz, faire des jeux... participer à une espèce de d'énigme. Par instant, ils vont sortir plusieurs fois et ils vont être confrontés à des décors où ils vont essayer de deviner par rapport à la végétation, par rapport à l'architecture, par rapport au plan qu'on va leur donner, leur proposer. Ils vont essayer de deviner les pistes qui vont les amener à savoir où ils sont, où ils vont arriver précisément avec le bus. Et si tu veux, sur une sorte d'iPad, entre guillemets, ils vont devoir placer un X à l'endroit où ils pensent être. Et effectivement, comme tu l'as dit, ceux qui sont le plus éloignés seront éliminés.
Et du coup, toi, tu les suis et ça va te permettre aussi, parce qu'il faut qu'ils te retrouvent en fait. Hein, le but, c'est qu'ils te retrouvent. Et toi, ça t'a fait voyager. Du coup, c'est pareil aux quatre coins de l'Europe, quoi.
Exactement. En fait, le but, c'est que d'étape en étape, ils vont se rapprocher de la destination finale. Destination finale où je suis et où le gagnant ou la gagnante va me retrouver.
Quels ont été les meilleurs moments pour toi là de cette aventure, pour le coup? Qu'est-ce que t'en retireras de cette expérience?
Les meilleurs moments, ce que je vais en retirer, c'est différent, mais les meilleurs moments que j'ai vécu, c'était d'abord de voir les candidats la première fois, parce qu'ils étaient vraiment excités. Et, si tu veux, ils savaient qu'ils allaient participer à un jeu d'aventure, mais ils ne connaissaient pas ce jeu, puisque c'est totalement inédit.
Ben oui.
Donc, ils ont découvert que c'était ce jeu au moment où ils sont partis, le premier jour. Évidemment, le dernier, où j'ai eu aussi une interaction avec eux, avec les derniers, les finalistes. Et donc, là, c'était vraiment sympa, parce que c'était une aventure humaine qui s'achevait pour eux. C'était quand même assez incroyable. Donc j'ai pu ressentir leur vibration, leur émotion au moment de la fin, quoi. Donc c'était quand même une belle expérience.
2024 va t'apporter certainement aussi peut-être son lot de rôles. On va parler du Saut du Diable, puisque je sais que c'est une fiction à laquelle tu tiens énormément. Il y a eu deux volets. Est-ce qu'on peut espérer un troisième? Peut-être et te retrouver dans une nouvelle aventure bientôt sur TF1?
On va me retrouver dans un Capitaine Marlowe.
Ah bien.
J'ai eu la chance.
Sur France 2.
Ouais, j'ai eu la chance exactement sur France Télévisions, sur France 2. J'ai tourné donc sous la direction de José Dayan. C'était vraiment une superbe expérience parce que José Dayan, c'est quand même une réalisatrice incroyable. Donc ça a été merveilleux de tourner avec elle, avec Corinne évidemment, Corinne Maziero, Catherine Yegel de la Comédie Française. Donc pour le show du diable, malheureusement, il y aura pas de volet 3. Parce qu'on a mis un peu trop de temps à fournir un scénario qui nous plaise, on a un petit peu qui plaise à la chaîne, qui nous plaise à nous aussi. Et donc ça faisait un peu trop de temps pour le public d'avoir un volet 1, 2 et 3. Et donc on va partir sur d'autres aventures.
C'est génial. Et puis alors d'ici quelques semaines, parce que le film est sorti le 1er novembre au cinéma, donc il va arriver en DVD VOD d'ici 2 mois. Si vous êtes passé à côté de Complètement Cramé au cinéma, eh bien précipitez-vous sur sa deuxième vie en DVD et VOD. Je pense courant février, début mars en tout cas, on va pouvoir découvrir cette comédie où tu incarnes un peu un ours des bois, hein, je crois.
Un petit peu, exactement. Écoute, c'était une très belle expérience. Il y a quand même un casting magnifique. Il y a quand même John Malkovich, Fanny Ardant et
Steve Duncan. Ah ouais, c'est dingue.
Ce sont des superbes acteurs. Donc, les gens qui aiment le cinéma et qui aiment la comédie avec cette forme de tendresse qu'il y a derrière ce roman complètement cramé.
De Gilles Le Jardinier.
Par l'auteur. C'était vraiment une expérience formidable. Et juste une petite chose aussi, c'est que on me verra, je crois, courant février sur Amazon dans le film Kali. K-A-L-I, c'est la déesse de la guerre, interprétée par Sabrina Ouazani et moi-même. Nous avons tourné au Brésil, à Rio de Janeiro, et nous avons, sous la direction de Julien Seri, et là c'est un film d'action pure, avec beaucoup de, si vous n'aimez pas la violence et l'action, ne le regardez pas. C'est vraiment un film c'est une sorte de revenge movie, avec Sabrina Ouazani, qui a le rôle principal, qui est formidable. Et donc, il y a vraiment des décors incroyables, époustouflants et de beaucoup d'action.
Connaissant le travail de Julien Seri, ça doit être en plus réalisé d'une main de maître. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous.
Destination X,
jeudi 21h10. Et puis on va se quitter avec la bande-annonce. Et puis toi, tu vas aller retrouver la bûche du coup.
Et oui, et la bûche, enfin je fais attention au sucre. Donc,
oui, mais bon, c'est Noël aujourd'hui, écoute. On fait une petite exception.
Ouais, je suis très panettone et je souhaite un joyeux Noël à tous.
On te souhaite un très joyeux Noël, évidemment, à toi aussi et à très vite, Philippe. Merci d'avoir été avec nous ce jour un peu spécial, évidemment. À très vite.
À très vite.
Quelque part sur Terre, à l'abri des regards indiscrets, se prépare un voyage. Un voyage comme vous n'en avez jamais vu. Un voyage qui dépasse l'imagination.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui pour ce jour de Noël. On commence très très fort pour ce 25 décembre parce que c'est un très très beau cadeau de Noël qui nous font d'être là aujourd'hui, malgré ce jour férié. Et bien c'est Vincent Pérez et Karine Silla qui sont avec nous pour une affaire d'honneur qui sort mercredi dans les salles. Bonjour à tous les deux. On commence par Karine.
Bonjour.
Et joyeux Noël.
Ben oui, joyeux Noël à tous. On est très très heureux de vous avoir. J'espère que le réveillon, en tout cas, s'est bien passé pour vous, même si j'imagine un peu l'état de stress peut-être un peu dans lequel vous vous trouvez, puisque dans 2 jours, Vincent, c'est ce 4e bébé qui va appartenir au public. Donc là, c'est en pleine fin d'accouchement. Là, on est en train de livrer les dernières secousses, quoi.
Oui, exactement. Après une magnifique tournée avec des réactions dans les salles qui ont été superbes, avec des débats absolument passionnants. Et puis c'est vrai que on est à chaque fois très heureux de montrer le film, dont personnellement j'en suis très fier et j'ai hâte maintenant que le grand public le découvre, hein, effectivement.
Eh ben, j'imagine bien. Karine, qui signe dialogue et qui a signé le co-scénario avec vous, Vincent, donc tous les deux, où vous est venue cette idée de traiter un peu justement des duels qui ont émaillé l'histoire de France? Je crois que c'est quasiment pendant un millénaire, c'est juste dingue.
Oui, c'est ça. En fait, ça a toujours existé et puis ça s'est arrêté avec la Deuxième Guerre mondiale. Le dernier duel était en 1967 avec un certain Gaston Defer. J'ai toujours eu en moi, je crois, ce film. J'ai toujours voulu faire un film sur l'art du combat, l'art du duel, de l'épée, du sabre, etc. J'ai fait à peu près une trentaine de combats au cinéma, donc j'ai travaillé des très grands maîtres d'armes et c'est vrai que j'ai ça en moi, en fait, après avoir fait Fanfan la Tulipe, Pierre-Anne Margot, Le Bossu, etc. et d'autres, à la Cyrano. Il y a eu ce film qu'il fallait que je trouve. Et ça a mis du temps. J'ai essayé une fois, j'ai pas trouvé. Et puis là, le miracle a eu lieu. J'ai trouvé la porte d'entrée. Karine m'a suivi, elle m'a encouragé pour aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on a découvert un monde absolument incroyable qui a vraiment existé. En fait, toutes les histoires qu'on voit là sont inspirées de personnages qui ont existé ou de faits qui ont existé. Et il y a eu une sorte d'âge d'or du duel entre 1881 et 1889. Notre histoire se situe en 87, donc on est en plein dedans. Et il y avait tout un monde extrêmement organisé, très protocolaire, qui existait. Et donc, pour la première fois, on voit ça au cinéma. Donc c'est assez merveilleux de pouvoir, faire découvrir aussi quelque chose, non seulement de faire un film grand public, parce que c'était un peu l'idée, en fait, que le film fasse passer un bon moment aussi au public, un moment dont il se souviendra, parce que je crois que les duels sont quand même assez réussis et impressionnants. J'y ai mis beaucoup de soin avec mon maître d'armes, mais c'est vrai que ce qui a été merveilleux, c'est de découvrir tous ces personnages.
Et des personnages qui ont vraiment existé. On va parler d'Astier, évidemment, qui est joué par Doria, du vôtre, qui est un peu, je vais pas dire le méchant de l'histoire, mais qui est peut-être, celui qui cherche un petit peu plus, justement, un type d'être que les autres. Karine, comment on arrive à se répartir les tâches quand on écrit à quatre mains, comme ça, un scénario?
Écoutez, par l'expérience, je crois que ça fait un moment maintenant, quelques années, qu'on travaille ensemble et on a trouvé notre manière de travailler. Là, sur ce film, moi je suis sa co-scénariste, donc je me mets au service du film que Vincent a dans la tête. Donc du coup, on commence déjà par en parler, on en parle beaucoup. J'écoute Vincent qui est dans cette chose, cette spirale obsessionnelle, donc quand on essaie de trouver vraiment l'axe du film et ce qu'il veut, en fait, ce qu'il veut raconter et ce qu'il est, le film qu'il a en lui, en fait. Donc c'est vraiment, vous parliez d'accouchement tout à l'heure, c'est exactement ça.
Oui, et puis ensuite, il y avait aussi une chose qui me fait vraiment plaisir, c'est que souvent, quand on fait les échanges avec le public, ils parlent de modernité. Et c'est très agréable d'entendre ça, parce que c'est vrai que c'était quelque chose auquel on a attaché beaucoup d'importance. C'est un film qui se passe en 1887, mais finalement c'est un film qui nous parle beaucoup, donc il y a une véritable modernité qui se dégage du film.
Vous qui vous attendez peut-être à avoir qu'un film d'épée et qui voudrait peut-être brousser chemin, non, erreur, au contraire, il faut y aller, parce que vous allez découvrir non seulement du romanesque, parce que il y a un petit semblant d'histoire d'amour, vous allez découvrir aussi, mais il y a aussi bien sûr les combats, il y a le féminisme qui est aussi vraiment au cœur, puisque le personnage d'Astier joué par Pedroia est une femme qui milite par exemple contre l'interdiction de porter un pantalon pour les femmes, de se travestir en homme. Et quand on apprend par exemple en regardant la fin du film que c'est seulement 2013, c'est-à-dire il y a 10 ans que cette loi a été abrogée, c'est totalement ubuesque cette histoire.
Oui, c'est fou, c'est pour vous montrer à quel point elle était bien ancrée en fait. C'est une loi qui a été créée en 1800, donc qui a perduré jusqu'à il y a pas longtemps, mais c'est une loi oubliée en fait. Marie-Rose Astier s'est battue pour ça, pour avoir le droit de porter le pantalon, parce qu'effectivement, quand vous allez voir le film, vous comprendrez pourquoi. Il y a eu énormément d'accidents à cause des robes. On parle de l'opéra comique où les victimes étaient la plupart des femmes prisonnières de leurs robes, et puis les femmes qui tombaient malades à cause de l'humidité en hiver, qui restaient avec les corsets bien fermés, avec ces femmes qui perdaient connaissance, qui s'évanouissaient. Donc il y avait pas mal d'accidents et on en parlait de plus en plus, alors que le monde en fait se modernisait, allait vers l'industrialisation, etc. Et ça fait effectivement, c'est à partir de Coco Chanel qui a fait tomber le corset et puis cette loi a été oubliée, mais elle s'est surtout battue pour la liberté des femmes. En fait, c'était une femme libre, moderne, en avance sur son temps, qui se battait pour l'égalité des salaires, etc. Mais le but, ça n'a jamais été, ça ne l'est pas encore aujourd'hui, de faire un film sur le féminisme. C'est pas un film féministe, en fait. C'est dans le film.
Roche Dizem, Doria Tillet, et il y a aussi Guillaume Gallienne, qui est incroyable, Damien Bonnard, toujours fidèle à lui-même, qui est exceptionnel, Noam Edge aussi, très belle découverte, vous avez pu voir dans Bardot, notamment dernièrement dans le rôle de Jean-Louis Trintignant. Et franchement, il y a un casting qui est où vraiment chacun est super bien à sa place. On va parler un peu des chorégraphies, un peu justement des combats dans un instant, et puis un peu plus de votre rôle aussi, Vincent. Et puis des difficultés peut-être d'être réalisateur et acteur en même temps dans un instant. Mais on va d'abord écouter la bande-annonce, c'est une affaire d'honneur. Ça sort mercredi dans les salles. Alors profitez de ces vacances de Noël pour aller vous détendre justement, aller découvrir ce film au cinéma. C'est mercredi, on écoute.
Allez !
J'ai appris ce matin que c'était votre neveu.
Je mets cette offense sur le compte de votre hystérie.
J'aurais dû arrêter le duel.
Une affaire d'honneur, c'est mercredi dans les salles. Vincent Pérez et Karine Silla sont avec nous en ce jour de Noël et on est bien heureux de vous avoir et que vous ayez passé en tout cas ces quelques minutes avec nous avant la sortie de ce film, parce que c'est dans deux jours. On va parler des scènes de combat, des chorégraphies, comment on arrive à gérer tout ça, surtout quand en plus on est devant et derrière la caméra. Mais on va déjà parler de votre rôle, Vincent.
Oui, alors le mien, ce personnage qui fait partie du monde d'avant, c'est celui qui, c'est un militaire, un colonel, et qui, je dirais, porte en lui l'idée du masculin, de la virilité, de l'honneur de la France, etc. Et donc du coup, c'est quelqu'un, je pense, qui s'est jamais vraiment remis d'avoir perdu cette guerre, et donc il retrouve dans les duels, je pense qu'il a, on peut le dire, il est un peu addict au duel, et que quand il se retrouve devant un offensé ou un offenseur et devant une épée, c'est comme s'il retrouvait le champ de bataille, et que peut-être à travers cela il va pouvoir réécrire l'histoire. Il y a quelque chose comme ça qui se passe en lui. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement obtus, précis, et qui est dans le contrôle de tout. Un personnage extrêmement respecté par l'intelligentsia parisienne de l'époque. Donc lui, il a inspiré de personnages qui ont existé, notamment un certain boulanger qui a à peu près une trentaine de duels à son compteur. Il y a des gens comme ça en fait qui se battaient tout le temps, en fait, qui se battaient beaucoup. Et
ce qui va mettre le feu aux poudres quand même, c'est ce jeune Adrien qui va faire les yeux doux courtisane de votre personnage, et qui va mettre un peu le feu aux poudres. Et c'est là que effectivement il va y avoir cette provocation en duel de ce jeune Adrien qui va en faire effectivement les frais, puisque lui n'est pas du tout habitué ni aguerri à ça, et va devoir en tout cas tenter de se faire aider par le maître d'armes joué par Roche Dizem. Et c'est là que commence effectivement toute cette dualité, Karine.
Bah en fait, il ne fait pas les yeux doux à sa courtisane, il découvre son amoureuse au bras du colonel Bercher.
Je voulais pas tout dévoiler, mais bon.
Non, mais donc du coup il a... Non, parce que ça se voit vraiment depuis le début du film, donc du coup c'est même pas expliqué dans le film, mais en fait il y a une pureté dans ce personnage qui est très belle, et aussi parce qu'il y a toute la fougue et tout l'espoir de la jeunesse qui vient se confronter à ce personnage qui est comme un ogre, qui est complètement traumatisé par la guerre,
et donc, qui en impose malgré tout,
et qui est vraiment comme le vieux lion qui est prêt à qui attend le jeune, quoi.
Alors, il y a des scènes de combat extrêmement chorégraphiées. Moi, celle qui m'a marqué le plus, sans rien dévoiler évidemment de la fin, c'est la dernière scène avec les chevaux, avec le sabre. Comment on fait pour chorégraphier une telle scène qui dure quand même un sacré bout de temps, et quand on doit être devant et derrière la caméra en même temps?
Oui, effectivement, comme les combats précédents, ils étaient déjà très d'un haut niveau. Il fallait absolument que ce dernier combat soit une sorte d'apothéose, de climax. C'était toute la gageure, et puis de travailler avec des chevaux, ça a été assez épique. Mais disons que tout était dans la préparation du film, en fait. Comme le duel est au centre du récit, donc on a vraiment attaché énormément d'importance à chacun des duels, chaque duel individuel est différent. Et celui-là, il fallait qu'il y ait une idée de retrouver justement la guerre, en fait. C'était un peu ça que je voulais exprimer à travers, en fait, ce combat complètement barbare. Ces deux personnages qui ont connu la guerre, qui ont été traumatisés par la guerre, se retrouvent dans les mêmes conditions. Et y a aussi une forme d'idée de barbarie et d'absurdité, en fait. Et à un moment donné, on se bat, on sait même plus pourquoi on se bat. Mais bon, pour ça, il faut voir le film, on va pas trop dévoiler. Mais ça a été effectivement le combat le plus, je dirais, le plus
épique, sans faire de jeu de mots.
Le plus, je dirais, le plus violent et le plus difficile à réaliser, ouais.
Comment on fait pour mettre en boîte un film comme ça en 39 jours?
Bah, les acteurs, ils ont beaucoup travaillé, en fait. Ils ont travaillé pratiquement 4 mois, 4 jours par semaine, 4 à 5 heures par jour, avec un maître d'armes, Michel Carliez, qui est un vieil ami avec qui j'ai fait beaucoup de films. Fanfan la Tulipe, Le Bossu, on en parlait tout à l'heure. Et puis une préparation aussi avec un coach physique pour pas qu'il se blesse. Tout était dans la préparation du film, en fait, effectivement. On n'avait pas beaucoup de temps. Donc il fallait qu'on sache exactement ce qu'on allait faire. Donc j'ai dessiné tout le film, le fameux combat là, il a été le combat final était storyboardé, sinon le reste n'était pas, j'aime pas trop l'idée du storyboard, mais parfois c'est nécessaire. Et puis surtout ne pas hésiter, enfin à un moment donné la moindre hésitation sur un plateau, c'est vous perdez un plan.
Dernière question, dans 10 ans, quand on reparlera d'une affaire d'honneur sur un des prochains films, on révoquera peut-être ce souvenir, qu'est-ce qui ressortira en premier pour vous deux, en tout cas de cette aventure que vous avez mis 4 ans à monter, et comment vous vous sentez là, à 2 jours de la sortie du film?
Moi, je pense que je serai toujours fière de Vincent, fière d'être allé au bout d'un rêve, je sais pas si le mot est juste, mais en tout cas d'être allé dans cette urgence, en fait, de raconter cette histoire, la manière dont il l'a fait. Et donc du coup, je suis sûre de toujours éprouver beaucoup de fierté en voyant le film. Comment on se sent?
Ouais, 2 jours de la sortie.
Oh, ça fait toujours, en fait je trouve ça terrifiant. Je trouve ça terrifiant parce que on a tellement envie, en fait, de partager, parce qu'en fait un film, en fait, il n'existe que dans le cœur des spectateurs, dans la mémoire des spectateurs. Donc en fait on espère, voilà, que la mémoire soit large.
C'est pour eux que vous faites ça. Il faut jamais l'oublier, c'est clair. Vincent, donc les deux dernières mêmes questions.
Je dirais je me suis battu, en fait, c'est le souvenir de quelqu'un qui s'est battu. Enfin, je me suis vraiment battu pour que ce film existe. Ça a été vraiment extrêmement compliqué au niveau du financement, en fait, parce que le film est passé à cause d'ailleurs le Covid, le film a failli s'arrêter à cause du Covid, enfin, et puis mais je dirais que une sorte de...
C'était une bataille avant les duels.
Mais non, je pense que c'est effectivement un film, dont je suis fier. Et voilà, je peux dire la même chose sur Karine. Je pense que je suis tout aussi fier d'elle que... Enfin, en tout cas, je pense qu'on a bien, travaillé. En fait, c'est vraiment ce sentiment d'un accomplissement, en fait. Et ça, c'est assez agréable. Tu voulais dire quelque chose?
Non, je dois dire que la date de sortie, comme ça, 2 jours après Noël, laisse espérer au miracle.
Et c'est vrai qu'un film, c'est un peu un miracle, hein, pour vous dire la vérité. C'est vrai que pour faire un film, on ne se rend pas compte de la somme de travail. Enfin, à 2 jours de la sortie, je me sens, serein. Je me sens plutôt serein. Au fond de moi, une trouille immense, mais c'est vrai qu'à la surface, une sorte de sérénité. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Je pense que le film, il est. J'ai tout fait pour que le film soit un film plaisant, un film que les gens passent vraiment un beau moment, un moment qu'ils oublieront pas. C'est vrai que on a rencontré quand même énormément de gens, et puis les réactions étaient tellement belles, tellement fortes, que je croise les doigts, je touche du bois là, vous voyez. Et puis après c'est le bébé qui s'envole, hein, il faut le laisser s'envoler aussi.
C'est clair. Merci en tout cas infiniment, Karine. Merci Vincent d'avoir été avec nous en ce jour de Noël, entre le foie gras et la bûche. On va vous laisser aller attaquer le dessert puisque la bûche nous attend tous pour ce jour de Noël. Une affaire d'honneur, c'est mercredi au cinéma, on ne le rate pas. Merci à tous les deux et à bientôt.
Merci, joyeux Noël.
Merci, joyeux Noël.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé pour le premier de l'an, premier jour de l'année 2024. On sera là avec Caroline Vignal pour la sortie du film Iris et les hommes. Toute l'équipe d'Un destin inattendu sera également avec nous, avec Esther Roland, Sonia Roland, Amanda Herzberg, Thierry Godard. Ils seront tous là pour la diffusion du téléfilm réalisé par Sonia Roland, tant attendu. Et Gilles Alma sera également de retour.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07. Pour la dernière quotidienne de la journée.
Chut, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est deux agences en Charente, à votre service, à Angoulême et Villebois-Lavalette et sur mazagran-immobilier.com.